VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriec au micro, Anne Albertson à mes côtés. Bienvenue à cette édition du mercredi 11 mars 2015. Au sommaire ce matin.
Première visite du Conseil de sécurité de l'ONU en Centrafrique. La délégation examinera la situation sur le terrain.
Évaluer d'abord les importants progrès accomplis dans la sortie de crise et la stabilisation du pays. Évaluer les progrès dans le déploiement et la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA.
François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU.
Guinée, le premier tour de la présidentielle fixé en octobre. Les élections communales auront lieu en 2016.
Nous n'accepterons pas cette décision d'organiser les élections locales en 2016, alors qu'elles devaient être faites avant les élections présidentielles.
Sidya Touré, ancien Premier ministre.
Côte d'Ivoire, la condamnation de Simone Gbagbo ne signifie pas que justice a été rendue, estime Human Rights Watch.
La coalition contre l'État islamique annonce la conquête d'une zone clé dans le nord-est de la Syrie. Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais avant le journal.
Première visite du Conseil de sécurité de l'ONU en Centrafrique, la délégation arrivée hier à Bangui examinera durant 48 heures la situation sur le terrain, 6 mois après le déploiement de la MINUSCA. La mission est attendue aujourd'hui à Bria, ville du centre-est du pays, repris le mois dernier par la MINUSCA aux ex-rebelles de la SEDECA. François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU et co-dirigeant de cette délégation, présente l'objectif de la mission.
Cette visite du Conseil de sécurité revêt une importance toute particulière. Elle a, je dirais, pour double objet d'évaluer et d'encourager. Évaluer d'abord les importants progrès accomplis dans la sortie de crise et la stabilisation du pays. Évaluer les progrès dans le déploiement et la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA, 6 mois après le transfert d'autorité de la MISCA. Évaluer d'un côté, encourager de l'autre, encourager les évolutions en cours en République centrafricaine, notamment la transition politique avec le prochain forum de Bangui.
Voilà, c'était François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU. À noter également que Florence Limbio, ministre centrafricaine de la coopération, a indiqué que cette mission du Conseil de sécurité est une fierté pour la RCA. L'agenda de la délégation prévoit une série de rencontres ce mercredi avec les hautes autorités centrafricaines, les forces internationales et les organisations de la société civile. La délégation s'envolera demain, jeudi, pour Addis Abeba.
Guinée, le premier tour de la présidentielle fixé en octobre. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé mardi que le premier tour aurait bien lieu le 11 octobre 2015. Les élections communales sont prévues pour la fin du mois de mars 2016. Joint par VOA Afrique, Sidya Touré ne décolère pas. L'ancien Premier ministre exige que ces élections aient lieu avant la présidentielle.
Actuellement, on veut organiser les élections présidentielles avec des maires, des chefs de district, des chefs de quartier qui relèvent uniquement du parti au pouvoir. Nous avions un accord avec le gouvernement, avec la communauté internationale, les accords du 3 juillet 2013, qui prévoyaient l'organisation des élections locales avant l'élection présidentielle. Donc nous n'accepterons pas cette décision d'organiser les élections locales en 2016, alors qu'elles devaient être faites avant les élections présidentielles, pour nous permettre justement d'avoir des élus locaux qui pourraient tous participer au processus de l'élection présidentielle, qui est l'élection majeure en Guinée cette année.
Sidya Touré, joint par Nicolas Pineau.
Au Burkina Faso, les militaires doivent être exclus du jeu politique et de la présidentielle d'octobre. Tel est le message délivré par d'importantes organisations de la société civile et une trentaine de partis politiques qui ont rencontré le président Michel Kafando hier. D'après l'AFP, leur déclaration vise notamment le général Djibril Bassolé, un des favoris du scrutin. Ex-chef de la diplomatie du président déchu Blaise Compaoré, il a confirmé à demi-mot il y a 2 semaines sa volonté de se présenter à la présidentielle.
Au Niger, 170 des 220 salariés d'Areva sur le pavé. La multinationale française les a licenciés dans le cadre d'un plan social sur le chantier de la mine d'uranium d'Imouraren dans le nord du pays. Un chantier suspendu depuis août dernier. Jacques Aristide.
Un porte-parole d'Areva a confirmé l'information telle que le rapporte l'AFP. Les indemnités de licenciement ont été fixées à 9 mois de salaire contre minimum légal de 5 mois d'après le même porte-parole. 17 autres employés ont été repositionnés sur d'autres entités du groupe ou des entreprises externes. Imouraren, projet minier détenu à majorité par Areva avec des participations minoritaires de l'État nigérien et de la compagnie sud-coréenne KEPCO, ne conserve donc que 40 personnes sur le chantier en attendant un éventuel redémarrage. Les travaux sur ce gisement géant d'uranium, démarré en 2009, ont été suspendus en août dernier en raison de la chute des prix de l'uranium, notamment après l'accident de la centrale japonaise de Fukushima. Le danger terroriste dans le Sahel avait aussi été évoqué par le passé. Lors d'un déplacement au Niger en novembre dernier, le chef du gouvernement français Manuel Valls avait dit espérer le redécollage de l'exploitation avant la fin de la décennie. Areva continue d'opérer deux mines d'uranium à côté d'Arlit, dans le nord du Niger.
La tension est encore montée d'un cran entre Rabat et Abuja. Le royaume chérifien a rappelé son ambassadeur au Nigeria pour consultation. C'est ce qu'annonce l'agence MAP. Cette mesure a été prise suite à un appel téléphonique passé par le président Goodluck Jonathan au roi Mohamed VI. Le souverain aurait refusé de répondre, voyant dans l'appel de Goodluck Jonathan une tentative de récupération politique auprès de l'électorat musulman du Nigeria. À quelques semaines de la présidentielle, le Nigeria dément.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lutte contre le groupe État islamique. La coalition contre le groupe djihadiste menée par les Américains annonce la conquête d'une zone clé la semaine dernière près de Tal Hamis au nord-est de la Syrie. Avancée qui a permis de couper les routes utilisées par les insurgés entre la Syrie et l'Irak, notamment pour envoyer des hommes et du matériel en Irak. Le groupe État islamique n'aurait donc plus de liberté de manœuvre dans la région, indique le communiqué de la coalition cité par l'AFP. Par ailleurs, l'État islamique a diffusé une vidéo de l'exécution par un jeune garçon d'un arabe israélien accusé d'espionner pour le Mossad, les services secrets israéliens, et dans laquelle un djihadiste menace en français de s'en prendre à Israël.
Conflit ukrainien, le ton monte entre Washington et Moscou. Les États-Unis accusent la Russie d'imposer le règne de la terreur en Crimée et dans l'est séparatiste pro-russe de l'Ukraine. Le département d'État parle d'un conflit fabriqué, contrôlé par le Kremlin, alimenté par des chars et des armes lourdes russes et financé par les contribuables russes. Le ministère russe des Affaires étrangères nie tout déploiement de soldats en Ukraine.
La Colombie suspend pendant un mois ses bombardements contre les FARC. C'est ce qu'a annoncé le président Juan Manuel Santos hier soir. D'après l'AFP, cette mesure exceptionnelle vise à accélérer le processus de paix avec la guérilla marxiste. Le conflit en Colombie, le plus vieux d'Amérique latine, a fait quelque 220 000 morts et plus de 5 millions de déplacés depuis plus de 50 ans.
Et vive réaction de Cuba suite à l'annonce lundi par l'administration Obama de nouvelles sanctions contre le régime du président vénézuélien Nicolas Maduro. Les précisions de Henri Francisque.
Il s'agit du premier différend public entre Washington et La Havane depuis que les deux pays ont annoncé en décembre le lancement de négociations en vue de normaliser leurs relations diplomatiques. Dans un communiqué publié par le journal officiel Granma, Cuba a qualifié la décision du président Barack Obama d'arbitraire et d'excessive. M. Obama a annoncé lundi avoir classé le Venezuela comme une menace pour la sécurité des États-Unis et avoir imposé des sanctions à 7 membres du gouvernement de M. Maduro accusés de violation des droits humains et de corruption. La Havane a tenu mardi à renouveler son soutien inconditionnel au régime du président Nicolas Maduro et au peuple vénézuélien. De son côté, Maduro a fustigé la décision de M. Obama, qu'il a qualifié d'injuste et préjudiciable.
Sachez aussi que le président Maduro a annoncé qu'il demanderait à l'Assemblée nationale de lui octroyer des pouvoirs spéciaux pour répondre à ce qu'il a qualifié d'agression impérialiste des États-Unis.
La Suède a décidé de ne pas renouveler son accord de coopération militaire signé avec l'Arabie Saoudite en 2005, a annoncé mardi le premier ministre social-démocrate Stefan Löfven. Il s'agit d'un accord controversé au sein de la majorité de gauche en raison de la question des droits de l'homme. Selon l'AFP, la coalition entre sociaux-démocrates et verts débattait en interne depuis son accession au pouvoir en octobre de l'opportunité de renouveler cet accord qui arrive à échéance en mai. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Les Verts militent traditionnellement contre la vente d'armes aux dictatures et considèrent que l'Arabie Saoudite en est une. Quant aux sociodémocrates, même s'ils étaient seuls au pouvoir à l'époque où cet accord avait été paraphé, ils apparaissaient très divisés sur la question. Cette décision est rendue publique peu après un incident diplomatique entre les deux pays, l'Arabie Saoudite ayant empêché la ministre des Affaires étrangères suédoise Margot Wallström de prononcer un discours prévu lors d'une réunion de la Ligue arabe au Caire. La ministre, qui revendique une politique étrangère féministe, avait hérité Riyad en dénonçant les méthodes moyenâgeuses de la justice saoudienne contre le blogueur Raef Badawi, flagellé pour insulte à l'islam. Monsieur Lofven, qui n'a pas donné de raison à cette décision, a cependant indiqué qu'elle avait été arrêtée depuis un certain temps et que les événements du Caire n'y avaient rien changé.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge. Au Burkina Faso, la compagnie marocaine Simaf a inauguré une usine de broyage d'une capacité de production de 500 000 tonnes de ciment. Le complexe a nécessité un investissement de 30 millions d'euros, indique Jeune Afrique. L'usine est installée à Bolesgo, au nord de Ouagadougou, dans la zone industrielle de Kossodo. Ses capacités de production pourront être portées à 1 million de tonnes en fonction de la demande, estime Simaf. Plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne tentent de se rapprocher de leur objectif d'autosuffisance alimentaire. Alors que 70% des Africains travaillent dans l'agriculture, près du quart de la population du continent demeure sous-alimentée, rappellent les derniers sondages. Pour le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Mansour Kama, un des principaux initiateurs du mouvement de l'autosuffisance en Afrique de l'Ouest, il faut lancer des campagnes de grande envergure pour inciter la population à consommer des produits locaux. Il expose ici le cas du riz.
Les habitudes alimentaires que malheureusement le Sénégal a et qui sont liées à son histoire en laissant le riz venir d'Indochine ou des pays de l'Asie, de Thaïlande, de l'Inde, des États-Unis ou d'ailleurs.
Le président ougandais Yoweri Museveni a appelé l'Organisation de la coopération islamique à accroître ses investissements dans les États membres, surtout dans les domaines des infrastructures, soulignant que cela stimulerait le développement économique en Afrique, indique l'agence de presse africaine. S'exprimant hier lors d'une réunion à Kampala avec le secrétaire général de l'OCI, Iyad Amin Madani, M. Museveni a insisté sur la nécessité de l'unité entre les pays membres, de même que la lutte contre les idéologies extrémistes et sectaires qui déchirent les communautés.
On passe au sport avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Morgan.
Football africain avec la CAN des moins de 20 ans au Sénégal.
Oui, la deuxième journée dans le groupe A ce mercredi. Le Nigeria est en tête du groupe grâce à sa victoire 3-1 contre le Sénégal, c'était dimanche. Eh bien, les jeunes Super Eagles qui affrontent le Congo. Quant aux Lionceaux de la Teranga, ils tenteront de se racheter après la déroute du premier match. Mais ça ne sera pas facile face aux éléphantaux de Côte d'Ivoire.
En Europe, football, on jouait hier la suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le Real Madrid recevait Schalke 0-4 et ce sont les Espagnols, sans surprise, qui se sont qualifiés. Score final 3-4. Autre rencontre, le FC Porto accueillait le FC Bâle et ce sont les Portugais qui se qualifient grâce à une victoire 4-0.
Et à suivre, Morgan, ce mercredi, les autres huitièmes de finale. Le PSG en déplacement à Chelsea. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a expliqué que son équipe devrait prendre ses responsabilités contre les Blues après un match nul un partout à l'aller qui oblige le PSG à attaquer et à marquer. Le Shakhtar Donetsk, lui, a déjà réalisé un petit exploit en tenant le 0-0 face au Bayern de Munich en Ukraine. Lors de ce match retour, la pression sera davantage sur les Munichois. Enfin, Morgan, je vous laisse donner quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Orlando, Indiana, 86-118. New Orleans, Brooklyn, 91. Cleveland, Dallas, 127-94. Toronto, San Antonio, 107-117. New York Knicks, Utah, 82-87. Détroit, Los Angeles Lakers, 85-93.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec en votre compagnie pour cette édition du mercredi 11 mars 2015. Place au dossier du jour. En Guinée, la commission électorale a fixé un calendrier. Les Guinéens sont appelés aux urnes le 11 octobre pour élire leur président. Et les locales, elles, sont prévues pour fin mars 2016. Correspondance de Zakaria Camara.
C'est un chronogramme contraire à celui que défendait l'opposition guinéenne, c'est-à-dire les locales avant la présidentielle. Et sans surprise, les premières réactions n'approuvent pas ces rendez-vous annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Aliou Condé, vice-président de l'UFDG, principal parti d'opposition.
Il n'est écrit que la CENI a la possibilité de modifier l'ordre des élections. Le code des collectivités, la constitution, le code électoral fixe la période pour chaque des élections.
Il y a quelques jours, les leaders de l'opposition guinéenne menaçaient de boycotter les travaux de l'Assemblée nationale et de retirer ses commissaires de la Commission électorale nationale indépendante si cette dernière annonçait l'organisation de la présidentielle avant les élections locales. Alors qu'au niveau de la mouvance présidentielle, c'est un autre son de cloche qu'on peut entendre de Amadou Damarou Camara du RPG Arc-en-Ciel.
Vaut mieux avoir des maires à mandat expiré qu'un président, un mandat expiré. La survie même de notre nation. Et je crois que c'est sage de la part de la CENI.
On connaît enfin le chronogramme. Le premier tour au 11 octobre prochain. Les locales à la fin du premier trimestre 2016. Reste à attendre que l'opposition mette à exécution ses menaces de reprendre les manifestations de rue. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Réagissant à la condamnation de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, Human Rights Watch a tenu à rappeler que la justice n'a pas été faite. La condamnation de Simone Gbagbo ne signifie pas que justice a été rendue aux victimes de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011, a déclaré Jean-Marie Fardeau, directeur France de Human Rights Watch. On l'écoute.
La justice n'a pas vraiment été rendue à Abidjan parce que Madame Gbagbo et d'ailleurs les 80 co-accusés ont été jugés pour des crimes contre l'État, pour des troubles à l'ordre public, mais n'ont pas encore été jugés, et en particulier Madame Gbagbo, pour les crimes de sang dont elle est accusée, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, dont elle est accusée au niveau de la Cour pénale internationale. Et nous pensons que les très nombreuses victimes civiles dont les droits fondamentaux ont été violés, soit parce qu'ils ont certains ont été tués ou violés ou blessés, ces personnes méritent que justice leur soit rendue. Nous attendons que la Côte d'Ivoire ou que la Cour pénale juge Madame Gbagbo pour ces crimes-là.
Est-ce que le gouvernement ivoirien a laissé entendre qu'il allait transférer Madame Gbagbo à la CPI ?
Pour l'instant, le gouvernement ivoirien s'est refusé à transférer Madame Gbagbo à la CPI. Pourtant, la Cour pénale internationale a fait savoir que l'appel rendu par la Côte d'Ivoire sur ce point du transfèrement de Madame Gbagbo était à l'étude, mais n'était pas suspensif de la nécessité, de l'urgence de transférer Madame Gbagbo à la Haye pour qu'elle commence la procédure de jugement dans le cadre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui lui sont reprochés par cette Cour. Pour Human Rights Watch, il est aussi très important que le gouvernement ivoirien et la Cour pénale internationale coopèrent de manière beaucoup plus intensive sur les poursuites contre des personnes proches du président Ouattara qui ont certainement aussi commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ces mêmes crimes pour lesquels nous demandons que Mme Gbagbo soit jugée le plus rapidement possible, soit à La Haye, soit en Côte d'Ivoire.
Jean-Marie Fardeau, directeur France de Human Rights Watch, qui était joint par Camille Grosdidier, a noté qu'une autre ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International, réclame également depuis plusieurs années le transfert de Madame Gbagbo à La Haye. Amnesty estime qu'il s'agirait d'un grand pas en avant dans la lutte contre l'impunité pour les atteintes aux droits humains commises par le passé en Côte d'Ivoire. La CPI avait en 2012 rendu public le mandat d'arrêt émis contre Simone Gbagbo pour 4 chefs de crimes contre l'humanité commis durant les violences post-électorales de 2010, meurtre, viols et autres formes de violences sexuelles, actes inhumains et actes de persécution. Son époux, l'ancien président Laurent Gbagbo, a été remis à la CPI en novembre 2011 et doit répondre de crimes contre l'humanité.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, comment les nouvelles technologies sont en train d'aider l'Afrique à relever ses nombreux défis? L'Internet est-il abordable dans votre pays? A-t-il changé votre vie? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
La milice nigériane Boko Haram a fait acte d'allégeance à l'État islamique, ce qui devrait faciliter ses contacts avec les réseaux terroristes opérant dans des pays tels que la Libye ou encore l'Afghanistan. Mais cette alliance sera-t-elle durable? Jean-Roger Billon nous en dit plus.
De l'avis des analystes, le groupe État islamique devrait accueillir favorablement le geste de Boko Haram, d'autant que depuis 2014, la secte nigériane ne semble plus se contenter d'admirer ou d'imiter l'État islamique, mais chercherait plutôt à coopérer avec la milice. À preuve, disent-ils, la vidéo de propagande diffusée par Boko Haram, diffusée sur un nouveau compte Twitter de la secte, elle a été radicalement modifiée cette année et semble nettement plus sophistiquée. Certains y ont vu l'œuvre de l'État islamique et puis le leader de Boko Haram s'exprime mieux dans cette vidéo. Lui aurait-on appris à mieux articuler ses pensées? Lorsqu'il a fait acte d'allégeance à l'État islamique, Chekao a fait en sorte que son message apparaisse en arabe sur la vidéo. Pour l'expert sénégalais Bakary Sam, qui rédige un ouvrage sur Boko Haram, la vidéo est de trop bonne qualité.
Cette fois-ci, Aboubakar Cheikh est revenu avec un discours construit, un discours bien pensé, mobilisant les références religieuses propres à l'école sunnite sur l'imamat ou le califat, en même temps dans un ton très solennel. Moi, je vois deux choses. Un, là, il se repositionne comme étant le véritable leader sérieux d'un mouvement qui dépasse maintenant les frontières du Nigeria et tend vers la construction d'un État islamique autour du bassin du lac Tchad. La deuxième chose, c'est que son allégeance à Aboubakr al-Baghdadi, à qui il donne le titre d'Al-Qurashi, part d'une volonté de légitimation de son pouvoir, légitimation aussi de son statut de calife mondial. Donc l'acte est bien posé.
Boko Haram et l'organisation État islamique partagent les mêmes buts, notamment la mise en place d'un califat et l'application de la charia. Selon l'expert en terrorisme Yann Saint-Pierre, patron de la société Mosekon, les deux milices ont récemment discuté de la façon de partager certains revenus. Une chose est certaine, la Libye leur permettra de maintenir le contact et de se soutenir mutuellement, mais l'on redoute que cette alliance ne permette à Boko Haram d'attirer encore plus de djihadistes.
Il y a une vingtaine d'années, le peuple Ogoni a forcé le géant du pétrole Royal Dutch Shell à mettre fin aux forages sur ses terres au Nigeria. La population imputait à ces forages la responsabilité de la pollution croissante de la région. Mais aujourd'hui, certains Ogoni estiment qu'il est temps de reprendre l'exploitation pétrolière. Jacques Aristide.
En 1993, le peuple Ogoni avait dit « ça suffit ». S'élevant contre l'extraction du pétrole sur ses terres, au motif de la destruction de l'environnement que cela entraînait, ainsi que du manque de partage des richesses de l'or noir. Le mouvement pour la survie du peuple Ogoni, le MOSOP, est né vers 1990 dans le sud du Nigeria, dans le but de défendre les intérêts du peuple Ogoni face aux abus commis par la Royal Dutch Shell et le gouvernement nigérian. Il s'était fait connaître par son chef charismatique Ken Saro-Wiwa, qui serait pendu en 1995 sous une dictature militaire de Sani Abacha en représailles pour son activisme. L'exploration pétrolière a transformé le pays Ogoni en immense terrain vague, déclarait Ken Saro-Wiwa en 1992. Les terres, les rivières et les ruisseaux sont en permanence entièrement pollués, l'atmosphère est empoisonnée, chargée de vapeurs, d'hydrocarbures, de méthane, d'oxyde de carbone et de suie rejetées par les torchères. Mais 20 ans après la mort du prix Nobel alternatif, certains Ogoni pensent qu'il est temps de reprendre la production, parmi eux Donald Keberesu, chef de la localité de Kebgaradere.
It to generate some sort of employment. Cela va générer des emplois. Cela va certainement intéresser nos jeunes. Et vous savez, là où il y a de l'argent, les gens peuvent avoir accès à une bonne éducation, à une bonne alimentation ou des logements adéquats.
Depuis le départ de Shell, la région est restée polluée. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, il faudra jusqu'à 30 ans pour nettoyer les dégâts provoqués par l'exploitation pétrolière. Ce qui fait dire à certains Ogoni qu'il faudrait peut-être résoudre cette question avant de relancer la production. D'autres font valoir qu'elle ne saurait reprendre sans profiter aux populations locales.
Nous allons prendre un nouveau départ parce que nous allons négocier. Vous me donnez ce que je veux et je fais de même.
Entre-temps, sur le terrain, les cours d'eau restent contaminés par le pétrole, comme c'était le cas dans les années 1990, du temps du militant Saro Wiwa.
Le taux de croissance de l'économie kényane pourra atteindre 6,9% en 2015 sur fond de baisse de l'inflation, estime le Fonds monétaire international. Il s'agit certes de l'un des taux le plus rapide au monde, mais le chômage menace et d'autres ombres pèsent sur ce tableau. Yonel Gaima nous en dit plus.
L'économie du Kenya reste forte grâce entre autres à une forte croissance du crédit et un environnement dynamique des investissements. Le lancement d'un projet de chemin de fer à écartement normal devrait donner une nouvelle impulsion à l'intégration en Afrique de l'Est en réduisant sensiblement les coûts de transport et en améliorant le niveau de vie des populations. Par ailleurs, les investissements dans l'exploration pétrolière se poursuivent. Mais nombre d'entrepreneurs vivent dans la crainte qu'un accord commercial clé avec les États-Unis ne sera pas renouvelé. Il s'agit de la GOA, la loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique, adoptée en 2000 et qui doit être renouvelée par le gouvernement américain tous les 5 ans. Cette loi américaine offre des incitations tangibles pour les pays africains à poursuivre leurs efforts pour ouvrir leurs économies et créer des marchés libres. Elle dresse notamment une liste de produits manufacturés africains exemptés de taxes lorsqu'ils sont exportés vers les États-Unis. Ce serait un désastre si la GOA n'est pas renouvelée, estime Pankaj Bedi, PDG des United Aryan Limited, entreprise de textile. D'autant que le chômage reste élevé et 40% des Kenyans vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le Gabon accueillera en août 2015 le 14e forum de la GOA qui regroupera les ministres africains du commerce pour faire le point sur le flux des échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au menu de la bonne musique country, la musique traditionnelle américaine. Nous allons aussi continuer avec notre sujet de cette semaine. Les droits des femmes ont-ils véritablement évolué? À cette question posée à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars dernier, envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40, je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous au 001-202-619-31-40. Encore une fois, 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace, Africa!
See you and me riding like Bonnie and Clyde, Road 95 burning down 129, yeah. Looking for the law while I push my luck. She loves shotgun like it ain't no thing. Turn the radio off so the girl can sing right. Pull them to the party like y'all was some. Tonight is bottoms up. Quiet little country town. Drop a tailgate on your truck. Find a keg and fill your cup. Kick it on back. Pretty little mama looking at you like that. Make you wanna slide on in like a herself. It's not as bottoms up. Give them up.
Morgane Guiriec au micro, Anne Albertson à mes côtés et à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.
cœur de l'info sur